Espace 2.
Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Il sera bientôt totalement impossible d'ignorer le lancement de ce film. A Vue d'Esprit vous propose une visite dans le monde imaginaire de C.S. Lewis.
A Vue d'Esprit.
Madame, Monsieur, bonjour. Michel Cocher au micro. Marie-Claude Cudry à la réalisation pour cette édition d'A Vue d'Esprit. Alors, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, vous le savez, c'est le titre d'un film coproduit par Disney qui sort cette semaine dans les salles de Suisse romande avec un grand marketing à la clé, bien sûr. Un film qui s'inspire d'un conte pour enfants rédigé par l'écrivain anglais C.S. Lewis. Et c'est de cet auteur anglais dont on parle cette semaine avec vous, Serge Carrel. Bonjour.
Oui, bonjour Michel.
Alors, vous nous proposez de découvrir cet auteur, non pas directement en nous invitant à une présentation générale, mais plutôt au travers de personnes qui ont saisi l'occasion de la sortie de ce film à maxi budget pour faire quelque chose.
Oui, effectivement. Hier, nous avons rencontré quelqu'un qui a lancé un site web à l'occasion de la sortie de ce film. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance d'un traducteur de C.S. Lewis. Denis Ducatel est français d'origine. Il habite le Mont Pèlerin. Il enseigne le français et l'allemand dans des écoles hôtelières de l'arc lémanique. Et ce monsieur, durant son temps libre, eh bien, traduit et édite aux éditions Raphaël les livres de C.S. Lewis. Et il en compte déjà 6 à son actif.
Et il en publie en cette fin d'année, comme par hasard. Ce n'est pas l'une des chroniques de Narnia qui inspire le film de Disney ?
Non, effectivement, les chroniques de Narnia sont publiées chez Gallimard, qui les réédite en un volume en cette fin d'année, 880 pages à se mettre sous la pupille. Mais Denis Ducatel, lui, réédite non pas ses chroniques, mais il publie pour la première fois en français les 4 amours. Alors je vous propose de rencontrer ce traducteur qui nous dit d'abord pourquoi il a choisi de traduire ce texte assez fameux de C.S. Lewis, ce texte qui s'intitule « Les 4 amours ».
Au départ, le désir, c'était de poursuivre la publication d'œuvres de Lewis, tout simplement. Donc je recherchais des œuvres de Lewis qui n'avaient pas encore été publiées ou qui n'étaient plus disponibles en français. Les 4 amours n'avaient jamais été publiées, apparemment ça n'a jamais intéressé d'éditeurs français, ce qui est assez surprenant avec un titre comme Les 4 amours. Depuis que j'ai commencé à parler de cette traduction, on m'a dit mais c'est un joli titre, ça va marcher dès qu'il y a le mot amour dans un titre. Alors je ne sais pas si le titre va interpeller. Il a été dans d'autres traductions, dans des traductions dans d'autres langues, le titre a été modifié. Alors ce qui m'a intéressé, c'est le thème de l'amour revisité avec un regard à la fois de chrétien, de philosophe, d'homme, et aussi le thème de je ne connais pas de livre qui présente l'amour d'une manière presque augustinienne, qui nous parle de l'ordre ou désordre des je sépare le mot des ordres de l'amour, des différents ordres qu'il y a dans l'amour. Pour moi, c'est un livre grand public qui touchera des gens, qui peut, en fait, c'est un livre qui peut toucher n'importe quelle personne, parce qu'on est tous concernés par les formes d'amour que Lewis présente. Il présente fondamentalement quatre formes d'amour, qui sont l'affection, l'amitié, Eros, l'amour érotique ou sentimental, et l'amour divin. L'amour divin au sens d'agapé, c'est-à-dire la dimension divine de l'amour, pas simplement l'amour de Dieu, mais aussi l'amour divin qui peut être en nous. Donc il analyse ces 4 formes d'amour, pas simplement comme un théologien ou un philosophe, mais aussi comme l'homme qu'il était, qui est resté célibataire la plus grande partie de sa vie, et qui il a une approche, je trouve, toujours pudique. Pour moi, c'est le terme qui convient le plus à Lewis, c'est le terme que j'emploierai pour Surpris par la joie et que j'emploierai pour les 4 amours, toujours très pudique. Et en même temps authentique, vrai, pas victorien du tout. C'est ce qui me touche dedans. Le lecteur pourra retrouver des formes d'affection, filiale, paternelle, maternelle, l'amitié. Il se retrouvera certainement quelque part dans ce livre, au travers de l'analyse de Lewis, qui est toujours très aiguisée, très fine, pleine d'humour.
En quoi cet ouvrage a joué pour vous un rôle thérapeutique, comme vous disiez tout à l'heure ?
Alors, il a joué un rôle peut-être moins thérapeutique que Surpris par la joie, mais il m'a aidé à voir les formes d'amour ou d'affection qui étaient un peu bancales dans ma propre vie. Pendant tout le livre, il divise l'amour en deux. Bon, il parle des quatre amours, mais dans ces quatre amours, on retrouve toujours deux grandes formes d'amour qu'il appelle, en anglais, il appelle gift love, need love. Moi, je l'ai traduit par l'amour donneur et l'amour demandeur. Et on s'aperçoit en fait que on peut être dans ces affections, dans ces amitiés, ou dans l'amour de Dieu, qu'on a pour Dieu. On peut sortir d'une forme d'amour qui est authentique, parce que pour Louis, ces deux formes d'amour, l'amour demandeur et l'amour donneur, sont des amours. Il n'y en a pas un qui doit être méprisé sous prétexte qu'il est demandeur. Il cite l'exemple du petit enfant, c'est à la première page, le petit enfant qui un soir d'orage se réfugie dans les bras de sa maman. Il dit c'est un amour demandeur, mais c'est quand même un amour et on n'a pas le droit de le mépriser pour autant. Par contre, ce qui moi m'a aidé, c'est de voir les formes d'amour qui me font sortir de ce que je suis réellement, qui sont des formes, je dirais, désordonnées d'amour. C'est ça qui m'a touché. Ça n'est pas un livre de psychologie, ça n'est pas un livre philosophique. On a l'impression de parler d'amour avec un ami, d'amour, d'amitié, d'affection. On échange des idées, on se parle des voisins et voisines. Ils donnent l'exemple d'une dame que dans le livre, moi j'ai appelé Madame Inlassable parce qu'elle essaie inlassablement d'aimer sa famille et ses enfants, mais elle les aime d'une manière extrêmement égocentrique, avec un grand besoin de reconnaissance, donc elle les aime assez mal. Mais ça, c'est le genre d'idées qu'on peut partager avec un ami. Et c'est, je crois qu'il considère un peu le lecteur comme un ami avec qui il a envie de communiquer.
Denis Ducatel, quelle est votre histoire avec C.S. Lewis ?
Ça n'est pas un coup de foudre, pas un premier amour spontané. C'est une histoire assez progressive, avec quelques heures. Comme je suis d'origine française, j'ai été formé d'une manière très cartésienne, dans le rationalisme, dans l'abstraction, dans la nécessité de prendre de la distance face à toute forme de vécu, à tout fragmenter, disséquer. Donc j'étais en fait assez peu prédisposé à entrer dans un monde comme celui de Louis, qui est un monde qui fait beaucoup plus appel à l'imagination, au cœur, au mode de connaissance intuitif, bien que Louis soit aussi un grand intellectuel. J'ai commencé par Tactique du diable. C'est peut-être pas le livre que je recommanderais spontanément aux auditeurs, mais il m'avait fasciné par son audace.
Concrètement, Tactique du diable, c'est en fait une sorte de conseiller diable en chef qui fait toute une série de remarques à une sorte de subalterne, son neveu, je crois, qui doit être en phase avec différentes personnes pour les amener à faire autre chose que ce qu'elles souhaiteraient.
Oui, et c'est en fait là, c'est plutôt le chrétien en moi qui s'est retrouvé dans le chrétien qui fait l'objet des tentations de ce fameux neveu. Je me suis retrouvé dans ces attaques, dans ces tentations, dans ma vie de chrétien. Mais c'est davantage l'audace littéraire, enfin l'idée de faire de Dieu l'ennemi et du diable celui qui est présenté comme le héros principal dans le livre. Donc alors je sais que c'est un peu déconcertant pour certaines personnes, enfin, je l'ai souvent entendu dire.
Oui, c'est un livre à lire en creux.
Oui, et puis à lire peut-être, moi je l'ai lu d'abord comme une œuvre littéraire, comme je vous ai dit, c'est surtout l'audace de l'auteur qui m'a interpellé. Et puis après, au deuxième degré, je me suis retrouvé, je me suis identifié à ce chrétien qui est tenté en permanence, agressé, on peut dire. Et ça a été mon premier contact avec Louis. Puis après, il s'est passé pas mal d'années avant que je retrouve un texte de Louis qui m'interpelle vraiment. Ça n'a pas été les Chroniques de Narnia, en tout cas pas les œuvres les plus connues de Lewis. Le livre qui m'a fait vraiment entrer dans le monde de Lewis, c'est Surpris par la joie.
Là, concrètement, Surpris par la joie, c'est un récit autobiographique, disons, assez à distance quand même, où C.S. Lewis essaye de traiter d'une intuition qu'il a et qui traverse l'ensemble de sa vie. C'est une sorte d'intuition à la fois affective ou intellectuelle, où il réalise une certaine dose de plaisir en faisant certaines activités, et il essaye un peu de retracer tout ce parcours de cette joie à la fois intellectuelle mais aussi affective qui traverse son existence.
Oui, c'est juste, mais la première fois que je l'ai lu, je ne l'ai pas lu comme ça, et en fait je l'ai lu en partant d'un malentendu. J'ai pensé, en lisant c'est le titre qui m'a interpellé, Surpris par la joie. Comme je savais qu'il s'agissait de son autobiographie, j'ai imaginé qu'il allait décrire sa conversion comme le fait d'être surpris par la joie. C'est comme ça que je l'ai interprété. Et je me suis complètement fourvoyé, parce que c'est exactement ce que vous avez dit. C'est une quête. C'est un mot qui est très, je sais pas si on peut dire aujourd'hui, lewisien. Enfin, je le dis, j'écrirais volontiers lewisien, parce qu'on dit bien tolkienien. Moi, ce qui m'a touché dedans, c'est d'une part la quête, ce désir inconsolable, inassouvi, cette nostalgie. Il emploie parfois le mot allemand Sehnsucht, qui est vraiment une nostalgie, une aspiration très forte d'être en contact avec une réalité qui paraît inaccessible, mais d'être en contact, on découvre dans le livre, en fait, avec la réalité ultime, d'être en contact avec l'essence des choses, qu'il définit par la joie. Il n'emploie pas l'expression « isness », je l'ai entendu plus tard, qui veut dire, oui, l'être même, l'essence, la nature des choses. Il cherche, dans ses expériences, comme vous disiez tout à l'heure, il cherche à retrouver la réalité ultime, la réalité absolue, mais ça se passe d'une manière tellement concrète. Il le fait en tant qu'enfant, et ça lui est venu. Moi, ce qui me touche dans ce livre, c'est que cette quête, on la trouve tout de suite après la mort de sa mère. Ça, c'est l'élément, pour moi, l'élément le plus touchant, le plus profond du livre, c'est cette...
Oui, ce qu'il faut dire, c'est que C.S. Lewis perd sa maman très jeune. Il avait quoi, 9-10 ans?
Oui, il perd sa maman à 10 ans. Elle meurt subitement d'un cancer. Il prie à ce moment-là, pensant presque à sa résurrection. On l'encourage un peu dans ce sens. Puis après, on lui montre que c'est absurde. Et on lui montre sa maman dans son cercueil. C'est très traumatisant. Il a un frère avec qui il aura jusqu'à la fin de sa vie une relation très forte, une relation affective et intellectuelle très forte, parce que son frère était aussi écrivain. Il n'a pas eu la même notoriété que Lewis. Mais Lewis s'est réfugié tout de suite après la mort de sa mère. Dans le monde des contes de fées, de l'imaginaire, du fantastique, il l'explique très bien dans Surpris par la joie. Et là, en fait, il a été saisi par le fait qu'en entrant en contact avec certaines expériences, il entrait en contact avec surtout certaines expériences qu'il qualifie de mythiques, dans ses jeux et dans ses lectures, il entre en contact avec une réalité qui va mettre plusieurs dizaines d'années à trouver. Il c'est une vraie quête de vérité, d'authenticité, de réalité que lui définit comme la joie. Et que les Allemands définissent par Sehnsucht. Cette quête, en fait, pour moi, c'est l'élément central. C'est pas tellement la joie en particulier, mais c'est la recherche, et c'est ce qui me touche aussi chez Tolkien dans la quête de Frodon. Je suis pas du tout fan de grandes batailles. J'ai pas de goût particulier pour tout ce qui est martial, mais dans Tolkien, moi, ce que j'aime justement, c'est ce sens de la quête du pèlerinage, le fait de savoir qu'on n'est jamais vraiment arrivé et qu'il y a au bout une réalité avec un grand R qu'on peut parfois, comme Lewis, comme il le dit, parfois appréhender, toucher, on peut en avoir des aperçus, subis, et c'est ce qu'il appelle ça des flèches de joie. C'est ça qui me touche en fait dans ce livre.
Et concrètement, ça vous a poussé à publier et à traduire aussi ce livre en français, ou en tout cas à revoir la traduction?
Oui, alors bon, non, en fait, sur Prépare la joie, c'est une traduction totalement originale, hein. Pas tous les autres, mais celle-là, elle a été faite de A à Z. Non, ce qui m'a poussé, c'est le bénéfice que j'ai retiré de ce livre. Et puis, il s'est passé une sorte de réconciliation en moi, en lisant Se prépare la joie. J'ai mentionné que j'étais plutôt cartésien dans mon approche de la vie ou de la connaissance, et c'est pas très cartésien en fait, surpris par la joie. Il est beaucoup question d'imagination, d'intuition, de modes de connaissance qui ne font pas forcément appel à la raison ou à l'intellect. Et je me suis dit, c'est quand même quelque chose dont le monde francophone souffre beaucoup, cette dualité permanente, ce tiraillement entre le désir d'analyser, de disséquer, de retrouver la logique implacable des choses, et puis le fait d'appréhender la réalité avec les voies du cœur. Et ça me manquait complètement. J'avais vraiment besoin d'être guéri dans ce domaine. Je me sentais pas du tout en contact avec mes désirs, avec mon cœur, même avec mon imagination. Et de là est né le désir de mettre à la disposition des francophones d'autres livres de Lewis. Enfin, si j'en avais trouvé d'autres que ceux de Lewis, je l'aurais fait.
Donc là, concrètement, on peut dire que cette traduction a été une sorte de démarche thérapeutique pour vous-même.
Ah oui, c'est le mot exact, parfait. Ça a été vraiment une démarche thérapeutique. Oui. La guérison s'est amorcée avec Surpris par la joie, et elle a continué. Alors plus tard, en fait, avec les récits plus, j'ai eu du mal à entrer dans les récits justement plus fantastiques. Je n'aurais pas pu lire Le Seigneur des Anneaux, ou les Chroniques de Narnia, ou la trilogie cosmique, avant d'avoir lu Surpris par la joie, et avant d'avoir vécu cette réconciliation entre ces divers modes de connaissance en moi, c'est sûr. Enfin, ça a vraiment changé ma vie, oui.
Denis Ducatel, c'est assez surprenant d'imaginer qu'un tel homme puisse à la fois avoir une carrière d'intellectuel très pointue, et puis en même temps s'intéresser aux mythes, s'intéresser aux contes de fées, s'intéresser à raconter un peu sa vision du monde de manière très imagée. On a somme toute peu d'auteurs francophones qui associent les deux éléments de cette manière-là.
Oui, bah c'est peut-être, je sais pas si on peut appeler ça le mal français. Perfit a écrit un livre sur le sujet, mais je pense qu'il faisait allusion à autre chose. Enfin, pour moi, c'était quand même une sorte de mal, parce que j'avais l'impression qu'il me manquait une dimension dans la connaissance, dans la manière d'aborder les choses, dans ma vision de la vie. Et ce qui m'a impressionné chez Lewis, c'est qu'au départ, il semble, même déjà en tant qu'enfant, il a compris qu'on ne pouvait pas saisir la réalité d'une manière uniquement abstraite. Et c'est vrai, il a écrit des livres qui sont assez abstraits. Enfin, L'abolition de l'homme, par exemple, c'est un livre vraiment très philosophique. C'est une démarche de philosophe, pas de théologien. Vraiment, pour moi, vraiment une démarche de philosophe, c'est un livre abstrait dans sa démarche, avec des réflexions sur l'objectivité des valeurs, qui sont des réflexions, pour moi, tout à fait cartésiennes, mais il avait compris qu'on ne pouvait pas vivre d'abstraction pure. Je trouve qu'un enfant puisse comprendre ça, ça m'impressionne beaucoup, et que pour saisir la réalité dans sa globalité, dans son intégralité, dans toute sa richesse et sa diversité, on avait besoin du mythe, on avait besoin d'images, on a besoin de rites, on a besoin que la réalité s'incarne d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'était quelque chose de très nouveau pour moi, dont l'élément déclenchant a été Surpris par la joie. Et ce que j'admire aussi chez Lewis, c'est cette capacité qu'il a d'écrire des textes de philosophes qui sont des textes vraiment abstraits, et en même temps d'aller dans le monde des enfants, de parler leur langage, et de s'identifier à l'imagination pure, innocente de l'enfant.
Mais en même temps, ce qui est surprenant dans votre démarche, c'est que vous n'avez jamais essayé, par exemple, de traduire les Chroniques de Narnia ou de vous pencher sur d'autres œuvres de C.S. Lewis qui sont plus narratives, plus inspirées d'une démarche un peu de création de mythes.
Oui, en fait, votre question me déconcerte un peu. J'ai un projet, en fait. Elle me déconcerte parce que je voudrais garder, enfin, rester un peu discret sur ce projet. Justement, j'ai le projet de traduire un texte qui fait appel au mythe, au fantastique. Et c'est vrai que j'ai encore des questions et des doutes par rapport à moi-même, parce que je me sens beaucoup plus à l'aise dans les livres, par exemple dans l'Abolition de l'homme ou dans des livres très philosophiques comme ceux de Joseph Pieper, qui était il n'était pas un ami de Lewis, mais il se connaissait et se respectait beaucoup, c'est un grand philosophe allemand. Et je me sens à l'aise dans l'abstraction. C'est vrai que je ne me serais pas lancé dans la traduction des Chroniques de Narnia ou dans la trilogie cosmique parce que j'en suis encore peut-être à mes balbutiements dans le conte de fées ou au niveau de l'écriture en tout cas. Ça n'est pas le genre de livre que je pourrais écrire moi. Donc je suis encore un peu retenu. Voilà.
Mais concrètement, vous envisagez une traduction d'une œuvre de C.S. Lewis qui n'est pas encore disponible en français et qui ressortirait à l'ordre plus narratif, plus création de mythes ?
Alors, il y a une œuvre de Lewis qui n'est pas encore... Enfin, il y en a quelques-unes qui ne sont pas encore en français, dont The Pilgrim's Regress, qui est en...
Donc c'est la régression du pèlerin, c'est une sorte de pendant au voyage du pèlerin de John Bunyan.
Oui, et Lewis a écrit Pilgrim's Regress tout de suite après sa conversion, à un moment où il n'était pas encore traversé dans ce genre, enfin traversé en tant qu'auteur dans ce genre de littérature, et il avait, je crois, envie, c'est une sorte de témoignage personnel, il avait envie de montrer la manière dont s'était passée sa propre découverte du christianisme.
Et ça, c'est un ouvrage que vous aimeriez mettre à disposition du grand public francophone aujourd'hui ?
Alors, ça n'est pas cet ouvrage que je faisais allusion tout à l'heure. Je ne sais pas encore. Non, je pensais à un ouvrage. Bon, je vais me trahir un peu. Je pensais à un ouvrage du mentor ou du maître à penser, enfin, de Lewis, qui s'appelle George MacDonald. Il a beaucoup écrit.
Oui, c'est un pasteur écossais qui était aussi un créateur d'histoire.
Oui. Oui, alors il était, peut-être, on dit dans les milieux littéraires, on dit qu'il était, que c'est davantage un théologien qu'un conteur. Les avis sont très partagés là-dessus. Moi, j'aime beaucoup ses contes, il a écrit beaucoup de contes pour enfants.
Et ce sont des contes qui ne sont pas encore disponibles en français.
Alors certains ont été traduits, j'ai fait beaucoup de recherches dans ce domaine. Donc, je crois 4 ou 5 de ces contes ont été traduits il y a 20 ou 30 ans. Ils ne sont plus disponibles, à ma connaissance. Et je ne pense pas, en fait, à un conte pour enfants. C'est pour moi encore... Enfin, le défi est beaucoup trop grand. Je pense plutôt à un récit fantastique pour adultes. Mais je ne peux pas affirmer aujourd'hui que je vais en être le traducteur. Mais le projet de le faire, il est là, oui.
Denis Ducatel, le premier volet de ces Chroniques de Narnia sort ces jours en film. Pour les personnes qui se rendront au cinéma afin de visionner cette production Disney, qu'est-ce qu'il est important d'avoir à l'esprit pour véritablement percevoir ce que C.S. Lewis a voulu transmettre au travers d'une telle œuvre ?
Alors, je pense qu'on peut aller voir Narnia comme on est allé voir Le Seigneur des Anneaux, puisqu'il y a quand même un lien direct entre ces deux personnes, enfin entre ces deux auteurs. On peut aller voir Narnia comme un grand film fantastique avec beaucoup d'effets spéciaux. Je crois que beaucoup de gens sont allés voir Le Seigneur des Anneaux dans cette optique, dans cette perspective, et puis ils en ont reçu autre chose. Le désir de Lewis, je pense que la volonté de Lewis en faisant Narnia, en écrivant Narnia, c'était même s'il s'en défendait un petit peu quand même, c'était de communiquer aux enfants, puisque ce Narnia s'adresse quand même principalement à des enfants, contrairement au Seigneur des Anneaux, c'était de communiquer une sorte de vision du monde. Je ne le considère pas vraiment comme un prosélyte, Lewis. C'était quelqu'un qui avait envie de partager ce qui lui tenait à cœur. Et il avait une vision du monde précise, qui est une vision du monde fondamentalement chrétienne, essentiellement chrétienne, comme celle de Tolkien d'ailleurs. Je tiens beaucoup à le dire, parce qu'on a dit et écrit tellement d'horreurs et de mensonges sur Tolkien au moment où le film est sorti, et d'ailleurs on en a encore écrit il n'y a pas très longtemps sur Narnia, avant même que Narnia sorte. Il est important de dire que Tolkien a écrit Narnia en tant que chrétien. Il était déjà chrétien, il avait envie de communiquer une vision du monde, il n'avait pas nécessairement envie de convertir, il avait envie d'éveiller la curiosité des gens. J'ai parlé tout à l'heure de quête, de désir inassouvi. On retrouve ça tout le temps chez Lewis. Il y a cette quête, cette curiosité, ouvrir les gens sur le monde, mais sur un monde qui n'est pas simplement le monde qu'on peut toucher, appréhender, sentir immédiatement. Alors moi je dirais aux gens qui iront voir Narnia, laissez-vous entraîner, ouvrez votre cœur, votre imagination, n'essayez pas d'analyser les symboles ou de voir quelque chose de purement allégorique dans Narnia. Laissez-vous entraîner dans l'histoire, tout simplement, comme font les enfants quand ils passent par la porte de l'armoire magique. Entrez dans Narnia avec un cœur d'enfant, une innocence, une naïveté d'enfant. Laissez-vous émerveiller, et puis là, vous allez probablement rencontrer des choses qui vont vous surprendre.
Il existe une prophétie selon laquelle deux fils d'Adam et deux filles d'Ève apparaîtront pour vaincre la sorcière blanche et mettre un terme à cet hiver éternel.
Je pense que vous vous méprenez. Nous ne sommes pas des héros.
Vous ne serez pas seul. Aslan est en route.
Nous avons besoin de votre aide.
Si Aslan veut la guerre, il aura la guerre.
Denis Ducatel, enseignant et traducteur de C.S. Lewis, s'exprimait à votre micro, Serge Carrel. Alors rappelons tout d'abord que Denis Ducatel a publié 7 ouvrages de Lewis.
Oui, dans le cadre des éditions Raphaël, la maison d'édition qu'il dirige, Denis Ducatel a publié entre autres Surpris par la joie, un récit autobiographique de C.S. Lewis. Il a publié aussi Le Grand Divorce, une réflexion sur les psaumes. Et il vient de sortir Les Quatre Amours, un ouvrage inédit en français.
Alors demain, nous poursuivons ces rencontres de personnes qui s'activent autour de la sortie de ce film inspiré des chroniques de Narnia. Et cette fois, nous partons à la découverte d'une philosophe.
Il s'agit d'Irène Fernandez. C'est une philosophe parisienne qui vient de publier une thèse sur C.S. Lewis, une thèse intitulée « Mythe, raison ardente » aux éditions Hatzolem à Genève. Elle présente notamment la pensée et l'œuvre littéraire de C.S. Lewis.
Alors rendez-vous pris, on vous retrouve demain, Serge, à l'enseigne d'un vue d'esprit.
Très volontiers.
Marie-Claude Cudry signe la réalisation de cette édition. Michel Cocher avait le plaisir de vous la présenter. Suite du programme d'Espace 2 maintenant, d'un air entendu.
Vivez la soirée de la Saint-Sylvestre avec Espace 2. Au menu, du French Cancan et des souvenirs amoureux. Pour commencer, La vie parisienne, un opéra bouffe d'Offenbach enregistré à l'Opéra de Lausanne. Puis, le témoignage de quelques couples jeunes et moins jeunes qui se sont rencontrés un 31 décembre. Enfin, la lecture du Réveillon à la Croix-Blanche, une nouvelle de Jacques Chessé. À suivre le 31 décembre dès 20h sur Espace 2.
Espace 2. Il va être 17h. Vous retrouvez Daniel Robella après les informations.